dans nos vies et pour ce que tu feras encore, car nous croyons que c'est un Dieu aux ressources illimitées, aux possibilités illimitées. Il est digne de tout recevoir. Alors, nous continuons sur notre phase de maturité. Nous voulons grandir avec Dieu, nous voulons grandir dans la connaissance de sa parole, nous voulons grandir avec le Seigneur. Nous avons vu beaucoup de choses au sujet de la prière et nous allons continuer. La semaine passée, nous avons parlé des dispositions que Jésus-Christ a évoquées par rapport à la prière. Et ces dispositions sont très importantes parce que prier, ce n'est pas de l'amusement. Il faut déjà s'approcher de Dieu avec un cœur humble. Il faut ensuite disposer un environnement, un moment, un lieu où il sera le seul invité. Pas plusieurs invités, il est le seul. Comme à la manière africaine où l'invité invite, non, avec Dieu, dans des rencontres comme ça, l'invité n'invite pas. Vous êtes seul avec le Seigneur. Troisième chose, nous devons éviter les redites inutiles, les vaines paroles, parce que ce n'est pas la répétition des mots qui pousse Dieu à exaucer nos prières. Nous devons parler vraiment et dire l'essentiel à Dieu. Dieu n'a pas besoin de perroquets, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui lui parlent avec le cœur. Et nous devons vraiment comprendre ces vérités-là, que Dieu est au centre même de la prière et qu'il est là, il est bien présent, et que nous devons croire qu'il écoute et il exauce nos prières. Si ces éléments-là ne sont pas posés, tout ce que vous allez faire ne va pas être productif. Parce que nous devons nous approcher de Dieu tout en tenant compte de certains principes. Et nous allons voir quelques réflexions sur la prière que j'ai eue cette semaine. Et après, nous allons voir un autre aspect de la prière. Et dans ces réflexions sur la prière, j'ai écrit que prier, c'est faire taire toutes les voix intérieures et extérieures, c'est-à-dire tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous défocalise. Il faut donc faire taire toutes ces voix intérieures et extérieures et se focaliser, se concentrer sur Dieu seul. Parce que, comme vous l'avez remarqué, chaque fois que vous décidez d'entrer dans sa présence, vous êtes envahi par plusieurs voix, par plusieurs pensées. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Parce que nous rentrons dans un monde qui est un monde spirituel. Et dans le monde des esprits, il y a tellement de choses qui se passent. Et donc, lorsque nous décidons de prier, il faut faire en sorte que toutes ces voix extérieures et étrangères, vous puissiez ne pas vous laisser distraire par elle. C'est que, donc il faut donc que tout en nous, dans toutes nos pensées, fasse silence devant le roi de gloire. Et que seul notre esprit soit en communion avec le Père. Donc c'est la même chose. Nos pensées doivent être centrées sur Dieu. Et c'est un grand travail à faire. Je comprends alors pourquoi la Bible dit que Dieu est au ciel et qu'on ne doit pas se précipiter d'ouvrir la bouche et de parler. Parce que déjà pour pouvoir communiquer avec Dieu, il y a des dispositions. Sinon vous allez parler et vous allez sortir de là vite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été en communion. Vous savez, quand nous parlons sans être en communion, on est épuisé, on est fatigué après. Mais lorsque nous sommes en communion avec Dieu, on ne va pas passer le temps et puis on ne se sent pas fatigué. Parce qu'on est régénéré dans sa présence. Lorsque chaque fois que vous priez, que vous sentez là trop fatigué, c'est que vous n'étiez pas connecté. Hein. Parce que parler, même dans la vie de tous les jours, j'ai fait des centres d'appel au Maroc. Au départ, lorsqu'ils sont arrivés au Maroc, on se dit que c'est le téléphone, il faut parler au téléphone. C'est facile comme travail. Parce qu'il faut juste parler. Mais je me suis rendu compte que parler là, c'est épuisant. Pourtant, on a l'impression que c'est facile, mais ça épuise. Donc, chaque fois que vous parlez, ou bien vous prétendez être en prière et que vous sortez là épuisé, c'est que vous n'étiez pas en communion d'esprit. Vous étiez en train de parler. Parce
parce que dans sa présence, on est renouvelé. Ce qui fait que quand on est vraiment dans sa présence, que ce soit dans une adoration, dans une louange, on ne sort pas de la fatiguée, on sort de la allégée. On sort de la restaurée. Parce qu'on ne peut pas être dans sa présence et ressortir avec un poids. Quand on rentre dans sa présence, on doit sortir léger. Mais si tu ne sors pas léger, c'est que quelque part, il y a un problème dans ta connexion. Nous devons apprendre à être en connexion, à être en communion. Ce qu'il faut, il faut absolument que vos disciplines, votre esprit, vos pensées doivent être vraiment centrées sur Dieu. Et laissez vraiment l'esprit, l'esprit. Pendant que vous priez, vous avez vraiment besoin que l'esprit vous conduise. Et vous conduise. Et quand je joue la guitare ici, je suis en prière. Et je demande au Saint-Esprit de me conduire. Je dis, conduis-moi, inspire-moi. Parce que ce que j'ai préparé, ce n'est pas ce qui se m'affiche. Je demande au Saint-Esprit de me pousser, de me souffler les choses. Parce que je veux vraiment être son instrument. Je veux qu'il me pousse. Je veux qu'il me conduise. Et quand je sors de là, finalement, je ne suis pas fatigué. Je me sens bien. Donc chaque fois que vous parlez, vous êtes très fatigué au sortir de là, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent leur envol comme l'aigle. Donc, on doit apprendre à nous centrer vraiment sur Dieu. Et quand vous vous rendez compte que l'esprit comme ça, les pensées sont dans tous les sens, il faut d'abord ramener toutes vos pensées. Ramener toutes vos pensées sur ce qui vous a amené dans sa présence. Parce que si ce qui vous a amené dans sa présence n'est pas une chose importante, vous allez sortir de là épuisé. Nous avons tous expérimenté une chose, c'est que quelqu'un peut t'appeler au téléphone, bien sûr, et tu fais autre chose. Pendant que tu parles, en même temps, tu fais autre chose. Tu parles au téléphone, mais tu peux aussi faire autre chose. Et ton interlocuteur, il peut le ressentir que tu n'es pas totalement avec lui. Ça se ressent, ça. Mais c'est la même chose. Nous pouvons être là et parler à Dieu, mais notre esprit n'est pas là. Ce qui fait qu'au sortir de là, on est fatigué, on est épuisé. Et moi, je pense que ceux qui s'approchent de Dieu ne peuvent pas sortir de là fatigués. Il est censé nous décharger. Il est censé nous renouveler. Nous sommes censés être renouvelés dans sa présence. C'est pas possible qu'on sorte de sa présence complètement broc, complètement brisé, complètement alourdi. C'est que il faut se poser la question, nous étions en connexion avec qui? Il faut réaliser ces choses. Il doit être le centre. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons l'aimer de toute notre pensée. C'est important. Prier, c'est donc laisser donc toute la place dans nos pensées, réserver et disposer du temps pour Dieu seul. Ça, on l'a vu. Donc, c'est regarder dans une seule direction. Quand vous décidez de prier, vous regardez dans une seule direction. Vous n'allez pas regarder à droite, à gauche. Vous êtes focalisé, fixé sur Dieu. Et je disais que vous priez, c'est oublier tout le reste. C'est s'oublier même soi-même et ne penser qu'à une seule chose, qu'à une seule personne, à Dieu. C'est oublier tout, s'oublier même. C'est se perdre finalement, se perdre en Dieu, se perdre en lui et lui laisser nous conduire. C'est s'oublier. C'est s'oublier. Donc prier, c'est oublier tout le reste, s'oublier soi-même. Parce que lorsque nous décidons d'entrer dans sa présence, finalement le temps il s'arrête. Le temps, il s'arrête. Le temps s'arrête parce que c'est un temps qui est réservé à Dieu. Le temps s'arrête. Et bien sûr, on sait que prier, c'est frapper à la porte des cieux. Et bien sûr, être reçu et accueilli par le roi des cieux. Parce que la seule façon de pouvoir attirer l'attention de Dieu, c'est de communiquer avec lui, c'est de lui parler. Maintenant, je veux insister sur un point ce matin, c'est-à-dire le rôle de notre âme dans la prière. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir rapidement, le rôle de l'âme, notre âme dans la prière. Parce que qu'on le veuille ou non, ce ne sont pas des machines qui prient Dieu. Ce sont des êtres avec toute leur volonté, avec tout leur désir de pouvoir communiquer avec le Seigneur. Donc on va lire certaines portions d'écriture. Nous allons partager la lecture, le psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Nous sommes en train de voir le rôle de l'âme dans la prière. Parce que notre âme joue un rôle, mais un rôle qui est bien défini, qui a des limites. Heureux de l'âme dans la prière. Psaume 103, verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Luc 1, le verset 46. Luc 1, verset 46. Luc 1, verset 46 déclare ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Âme et esprit unis ensemble pour pouvoir prier, louer le Seigneur. Psaume 54, on repart dans Psaume 54. Psaume 54, verset 5. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la fin du verset qui dit que « Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. » Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et enfin, nous terminons par Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Voilà. Alors, Ésaïe 26, verset 9 déclare ceci. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Je reprends cette partie. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Donc, au regard de tous les passages que nous avons vus, nous devons réaliser une chose, c'est que l'âme est un élément qui prépare à ce que nous puissions rentrer dans la communion. Parce que l'âme est composée de trois parties importantes et ces trois parties importantes doivent être engagées dans la prière. Si ces trois parties importantes qui composent l'âme ne sont pas engagées dans la prière, ça ne sera pas une prière vraie devant le Seigneur. L'âme est faite de la volonté, nos désirs se trouvent dans l'âme. Donc pour pouvoir prier, il faut désirer, il faut pouvoir désirer cette présence de Dieu, il faut pouvoir désirer Dieu. Parce que si la rencontre, ce qui vous amène à Dieu, ce n'est pas un désir, ce n'est pas quelque chose que vous aimez, ça va être un fardeau pour vous. Ce qui fait que dans nos assemblées, ben les gens, quand ce sont des moments de prière, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce qu'il n'y a pas le désir. En nous, il n'y a pas ce désir, cette faim, cette soif-là de pouvoir aller dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'il n'y a pas le désir, les gens, ils viennent quand même, ils sont dans des formalités. Nous avons besoin, avec toute notre raison, de nous approcher de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien ce que le cantique de cantique dit, c'est avec raison que nous t'aimons. Avec raison. Donc vous ne pouvez pas prier en dehors de votre volonté. On ne peut pas vous obliger à prier. Lorsque la prière devient une obligation, c'est une prière qui ne plaît pas à Dieu. Et que Dieu n'agrée pas. Parce que la prière, ce n'est pas une obligation. Ça doit être un désir. Ça doit venir au plus profond de vous-même. Et ça, c'est le travail de l'âme qui doit préparer cela. Vous devez désirer aller dans sa présence. Vous devez désirer aller à la rencontre de Dieu. Ça doit venir au plus profond de vous. Si vous n'avez pas le désir, vous n'allez pas prier, vous allez juste faire des formalités parce qu'on vous a dit qu'il faut prier. Il faut désirer. Mais pour pouvoir désirer, il faut réaliser l'importance de l'objet désiré. Parce que si la chose qu'on me demande d'aller à la rencontre, je ne suis pas convaincu de cette chose-là, je ne la trouve pas importante et tout, je ne veux pas la désirer. Il faut réaliser l'importance de Dieu. L'importance de Dieu pour pouvoir désirer et soupirer cela. Parce que si on ne réalise pas son importance et sa valeur, on ne va pas désirer. Ça dit que bon, je peux ou je ne peux pas le faire, qu'importe. Mais lorsque je sais que c'est vraiment important, je soupire et je veux vraiment être dans sa présence. Parce que nous aimons. Parce que nous l'aimons. Donc si le désir n'est pas dans le cœur, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on doit aimer Dieu. Naturellement, un enfant de Dieu doit aimer Dieu. Parce que l'amour du Père, la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour du Père, ben, si on n'a pas l'amour là, du Père, on n'aime pas le Père en tant que fils, c'est qu'il y a un problème. Parce que tous les fils doivent aimer le Père. Nous devons aimer le Père. Naturellement, nous devons aimer. Le bébé, naturellement, il désire le lait maternel. Naturellement, il le désire, le lait. Le bébé, naturellement, désire le lait. C'est vital pour lui, hein? Donc, en lui, naturellement, il y a ce désir-là du lait. Est-ce que nous, qui prétendons être enfants de Dieu, nous avons naturellement en nous, en tant que nouvelle création, ce désir-là de nous approcher de Dieu? Donc, l'âme est engagée dans le processus, dans la préparation à rentrer dans la communion. Donc, dans l'âme, je dis qu'il y a la volonté, ce qu'on vient de voir. Dans l'âme, il y a les pensées. Vos pensées, ça se trouve dans l'âme. Et comme je dis que dans la prière, il faut que toutes nos pensées soient focalisées sur Dieu. Donc, nos pensées, nous devons comment ramener toutes nos pensées en Dieu. De la même manière que nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et de sa parole. Mais pour la prière, c'est la même chose. Vos pensées, vous devez les discipliner. Vous devez apprendre à les recentrer. Lorsque vous sentez que ça va dans tous les sens, recentrez vos pensées. Or, les pensées, c'est au niveau de l'âme. Et si on néglige cet aspect-là, on va soi-disant prier, mais ça va aller dans tous les sens parce que notre pensée n'est pas là. Oh, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force et de toute ta pensée. Il parle aussi de la pensée. De toute ton âme. Donc, l'âme n'est pas exclue. Nous devons nous centrer sur Dieu dans nos pensées. Donc, nos pensées sont engagées. C'est-à-dire que il n'y a pas de conception sans qu'il y ait d'abord eu dans la pensée, le projet soit d'abord dans la pensée. On ne peut pas mener quelque chose à l'existence sans que ce soit d'abord un projet conçu, n'est-ce pas? Ça commence d'abord par une idée, une pensée, et après ça vient à l'existence. Donc nous avons besoin, j'ai pensé, j'ai réfléchi et j'ai pris la décision de pouvoir me rapprocher de Dieu. Et il est le seul objet de ce moment-là, le moment que j'ai arrêté, c'est lui seul, le seul objet. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Donc quand je me rends compte qu'il est le seul objet à ce moment-là, toute forme d'intrusion, je vais donc faire en sorte que tout ce qui n'est pas conforme à ce qui m'amène dans sa présence, que je commence à écarter cela. Ne laissez pas les parasites. Quand vous vous rendez compte qu'au moment où vous avez décidé d'entrer dans sa présence et que bah, vous avez une pensée par rapport à votre travail, une pensée par rapport à la famille et tout, cette pensée-là, vous devez l'écarter, vous ne devez pas la gérer, vous ne devez pas l'entretenir. Vous devez vous fixer vraiment sur ce qui vous a mené dans sa présence. Parce que la bataille des pensées, elle est sérieuse pour le chrétien. Et chacun de nous, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il prie, il l'a expérimenté, je dis bien au minimum une fois. Ça, c'est un minimum, mais sinon souvent on l'expérimente, que tu décides de prier et lorsque tu te prépares à y entrer dans sa présence, ça vient de toutes parts. Et après, tu deviens comme distrait parce que tu as plein de pensées qui arrivent à ce moment-là. Pourtant, tu es venu pour prier, n'est-ce pas? Mais après, tu gères plein de choses. Ça vient de toutes parts. On a tous expérimenté cela.
Donc quand ça vient là, tu ne vas pas laisser, parce que si tu laisses, tu vas parler. Or, si tu parles, tu n'es pas en communion avec Dieu, donc tu n'auras pas prié selon Dieu. Tu aurais parlé tout en te laissant diriger, conduit par toutes ces pensées-là. Or, nous devons apprendre à discipliner nos pensées. Je suis venu, c'est pour le Seigneur. Et ce qui fait que c'est une lutte au départ. La connexion finalement spirituelle avec Dieu dans des moments comme ça là, comme disait un homme de Dieu, pour lui, je crois que c'était 30 ou une heure, il fallait d'abord que pendant les 30 minutes là, le temps d'abord de gérer les pensées. Donc, il avait besoin d'une bonne demi-heure avant de pleinement rentrer, parce qu'il fallait gérer les pensées jusqu'à ce que paf, il soit focalisé. Parce qu'au début, si on est compte que ça allait dans tous les sens et que ça allait le distraire, ça allait l'empêcher d'atteindre l'objectif. Donc, finalement, on se rend compte qu'on en a besoin à un moment donné de rester calme quand on est dans nos rencontres personnelles avec le Seigneur pour gérer d'abord les pensées. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez parler. Après, vous allez être épuisé et vous serez fatigué, vous n'avez rien reçu. C'est pourquoi c'est vraiment du temps qu'il faut mettre à part. Ce n'est pas juste être pressé pour parler, mais c'est les rencontres avec Dieu, c'est vraiment du temps qu'il faut mettre à part. Là, je parle des rencontres parce que j'aime bien revenir là-dessus. Je parle ici des rencontres, c'est-à-dire les moments que tu consacres pour Dieu. Je ne suis pas en train de parler quand tu es, par exemple, en voiture, ou bien tu te promènes et que tu es en train de parler au Seigneur comme ça, là, tu lui exprimes ce que tu as dans le cœur. C'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle des rencontres, des moments que tu mets à part pour parler avec Dieu. C'est de ça dont je suis en train de parler. Ces moments-là, il faut les préparer pour pouvoir pleinement être béni par ces moments-là. Il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Sinon, vous allez pas vous en sortir, vous allez être frustré. Alors que les 30 premières minutes là, c'est là où il faut vraiment résister, faire le travail des pensées pour que l'ennemi de nos âmes se rende compte que nous on sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on est dans sa présence. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous allez commencer à prier et après un moment donné, pouf, il y a interférence. Vous n'êtes pas tué là, et après une interférence arrive, les autres pensées arrivent. Tout le monde doit ramener tes pensées dans la source qui t'a amené. Tu pries, tu pries, tu pries. Après, tu sens encore d'autres pensées arrivent. Tout le monde doit ramener tes pensées, parce que si tu gères l'autre pensée, tu vas maintenant te perdre. Parce qu'au moment où tu étais focalisé sur le but, tu continues à penser à autre chose. Et même dans la lecture de la parole de Dieu, tu peux lire la parole de Dieu, et puis les pensées là, ça vient, pouf, et tu commences à penser à autre chose. Et tu t'arrêtes finalement, parce que tu t'entends le lire. Après, une pensée arrive et cette pensée te défocalise de ce que tu lisais et tu commences à penser à autre chose. Donc, c'est pourquoi nos pensées, on aura un enseignement beaucoup plus approfondi là-dessus par rapport à nos pensées. Mais j'aimerais dire que nos pensées jouent un rôle important. Et si vous les négligez, vous allez avoir des problèmes. Donc, et ça fait partie de l'âme. Et enfin, l'âme a une troisième composante qui est la dimension des émotions, des sentiments, l'affectif. Les émotions se trouvent dans l'âme. C'est dans l'âme que se trouvent les émotions. C'est-à-dire que nous devons pouvoir parler avec le cœur, dire à Dieu réellement ce que nous ressentons. Parce que dans sa présence et devant le Seigneur, on ne doit pas être stoïque. Regardez le psalmiste, la meilleure façon de bien voir comment certaines personnes de la Bible avaient compris cela. Regardez les psaumes de David et regardez les psalmistes. Ils parlaient avec le cœur. Ils parlaient de leurs émotions, ils parlaient de leurs sentiments, de ce qu'ils pouvaient ressentir. Ils parlaient de leur tristesse, ils parlaient de leur frustration. Parlez avec le cœur. Parce que si vous ne parlez pas avec le cœur, vous allez être faux. Vous ne serez pas sincère. Dieu veut la sincérité. Dieu veut des hommes vrais. Il n'a pas besoin qu'on fasse de la comédie. Dieu a besoin qu'on parle avec le cœur. Et ça, c'est une dimension de l'âme qui implique les sentiments. Il faut que nous puissions exprimer à Dieu tout ce que nous pouvons ressentir. Parce que lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Même si vous ne pleurez pas devant les hommes, vous pouvez pleurer devant le Seigneur. Il vous connaît mieux que quiconque. Il ne va pas vous dire, mais pourquoi tu pleures? Il ne va pas te le dire. Il va compatir, il te connaît. Il connaît, si déjà les cheveux, chaque cheveu de nos têtes sont comptés, mais à combien plus forte raison chaque larme, goutte qui tombe de notre visage, il connaît. Donc devant Dieu, finalement, nous sommes à nu, comme au commencement, Adam était nu devant Dieu. Il n'y avait pas de choses qu'il pouvait cacher, protéger. Il était à découvert. Dieu le voyait. Et quand le péché est arrivé, quand le péché est rentré, ils ont voulu cacher, se couvrir. Mais Dieu là qui les avait créés, ils étaient à nu devant Dieu. Et finalement quand nous revenons en Christ, finalement on repart dans cet état là devant Dieu. Nous devons être comme Adam au commencement, c'est-à-dire à découvert, nu devant le Seigneur. On n'a rien à lui cacher parce qu'il nous connaît, il nous a créés. On repart dans l'état initial où l'homme était nu devant Dieu, mais il n'en avait pas conscience. Et puis ça ne dérangeait pas Dieu et il vivait comme ça. Et Dieu les connaissait comme ça. Donc devant le Seigneur, on ne doit pas faire semblant, frères et sœurs. Nous devons être nous-mêmes et être vrais. Ce n'est pas une faiblesse devant Dieu. Ce n'est pas une faiblesse. Parce que les gens comme les David, ils ont pleuré, ils ont traversé des moments très 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 difficiles. Ce n'est pas une faiblesse. Donc retenez que la prière, l'âme joue un rôle important également. Et l'âme, c'est comme les préliminaires qui vont permettre après à l'esprit de pouvoir vous conduire. Mais l'esprit ne pourra pas vous conduire si au préalable, les préliminaires au niveau de l'âme ne sont pas faits. Et j'insiste là-dessus. L'esprit ne pourra pas vous conduire si les préliminaires au niveau de l'âme ne sont pas faits. Si les dispositions ne sont pas mises en place, l'esprit ne vous conduira pas. L'esprit vous conduira que lorsque vous vous serez disposé et que vous vous serez préparé. À ce moment-là, il verra votre disposition et il vous conduira. Mais sinon, vous allez faire des choses par vous-même, par vos efforts, vous ne serez pas conduit par l'Esprit. La seule façon vraiment de coopérer avec le Saint-Esprit, c'est de respecter les dispositions de Dieu. Et de montrer véritablement que vous, c'est avec raison, vous savez le pourquoi vous êtes dans sa présence. Ce n'est pas compliqué. Lui, il veut nous conduire, mais il conduira des personnes qui sont préparées, qui sont disposées à lui laisser prendre la place. Mais s'il se rend compte que vous êtes dans le mode formalité, il ne va pas vous conduire. Parce que vous êtes fermé. Vous ne devez pas être fermé à lui. Vous devez lui permettre de vous diriger. Mais comment il va vous diriger si les dispositions ne sont pas prises en compte? Comment il va le faire? Il faut dire, là je me laisse conduire, je suis là pour toi. C'est pourquoi je vous avais dit, pour ceux qui arrivent un peu plus à temps au culte, j'ai dit que le culte c'est chacun de vous. C'est comment vous êtes préparé. Donc la qualité du culte dépend de vous. Donc si vous n'êtes pas fixé sur Dieu, centré sur Dieu, c'est vous-même. Ça c'est votre problème. Moi je vous dis, Dieu est au centre, on est là pour offrir une offrande au Seigneur. La gloire doit revenir au Seigneur. Maintenant chacun doit se disposer. C'est pourquoi si je ne suis pas disposé, ben ça va déteindre sur ben, la qualité de mon culte. Souvenez-vous de Josaphat, après la frayeur, il s'est disposé. On dit quoi? Dans sa frayeur, il se disposa. Pour pouvoir prier, il faut se disposer. Josaphat n'est pas directement allé, il se disposa. Il se disposa à pouvoir chercher Dieu. Tant qu'on n'est pas disposé, l'Esprit ne nous conduira pas. L'Esprit conduira des hommes et des femmes disposés et disponibles pour Dieu. Si vous êtes disposé et que vous êtes disponible, vous avez consacré, vous êtes prêt à consacrer du temps au Seigneur, l'Esprit vous conduira. Et vous sortirez de là, finalement, béni. Vous-même, vous allez le ressentir. Donc c'est vraiment une affaire personnelle et je suis là en train de donner juste des clés, des pistes pour vous aider à grandir dans votre communion avec le Père. Sinon ça va être, vous allez tourner et la prière sera un grand fardeau. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je tenais à partager sur l'implication de l'âme dans la prière. Donc l'âme, je le dis, nous prépare à être conduit par l'Esprit. Si notre âme, au niveau de l'âme, c'est pas réglé, on ne sera pas conduit par l'Esprit. Et si on n'est pas conduit par l'Esprit, on sera conduit par la chair. Et si au niveau de l'âme, c'est réglé, on est vraiment là, on a tout le cœur qui est là, où il est vraiment le centre, et on se dit que je suis venu pour ça, alors l'Esprit va nous conduire. Mais si au niveau de l'âme, c'est pas réglé, vous n'avez pas le désir, vous n'avez pas la volonté, ça ne vous plaît pas,
Si déjà ça ne vous plaît pas, il ne va rien faire d'autre. Hein. Si vous n'aimez pas sa présence, si vous ne voulez pas vous approcher de Dieu, et tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Il ne va pas t'obliger à aimer. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais tu tombes après dans une routine, dans des formalités. Alors que normalement, je le répète, naturellement, un enfant de Dieu doit aimer son père. On ne peut pas être des enfants de Dieu qu'on n'aime pas Dieu. Hein? Si je prétends être chrétien et que je n'aime pas Dieu, c'est que je me trompe à moi-même. Parce que j'ai pris l'exemple de l'enfant. L'enfant, naturellement, il aime le lait, il est prédisposé à chercher le lait. Donc on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, Dieu est notre Père et on n'aime pas Dieu. C'est contradictoire. On a besoin de comprendre qui est Dieu et quelle est sa valeur, quelle est l'importance de Dieu. Dieu n'est pas un accessoire, Dieu n'est pas un concept. Il est bien plus que ce que nous pouvons penser. Et quand nous réalisons sa valeur et son importance, on peut lui accorder la place qui lui revient de droit. Mais si nous négocions avec la place qui lui revient de droit, c'est parce que quelque part nous ne mesurons pas toujours la valeur de Dieu. Vous savez, c'est un privilège que de pouvoir connaître le Seigneur. Autant que nous pouvons réaliser l'importance de ce que Dieu nous donne maintenant que nous sommes dans la foi. Ce matin, je le disais au commencement de ces moments que cette semaine, j'ai pu réaliser l'importance des yeux parce que, en suivant justement une série, je me suis rendu compte que ce que Dieu nous donne, quelquefois, nous ne prenons pas ça au sérieux. Et j'ai commencé à me poser la question si j'étais aveugle. Parce que vous pouvez vous lever demain et puis ne plus voir. Quelle sera votre vie si vous ne voyez plus? Le monde, vous n'allez plus voir. Pour nous qui sommes parents, on ne va plus voir nos enfants. On ne va plus rien voir du tout. Une vie dans l'obscurité. Alors, je me suis posé la question, est-ce que j'étais prêt, moi, à vivre dans cette obscurité-là? Ça m'a perturbé, ça, je peux vous le dire. Hein? Parce que moi, je vous dis souvent, Dieu me parle à travers les circonstances, et même à travers la télé, hein? Et ça m'a vraiment perturbé. Hein? C'est comme si le Seigneur me disait, si maintenant, là, ça s'éteignait. Là. C'est-à-dire que si, au jour d'aujourd'hui, là, tu ne vois plus, tu deviens aveugle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés aveugles, mais qui le sont devenus. Parce que dans cette série-là, la fille... parce qu'après, elle va devenir aveugle. Hein. Elle est née normale. Hein. Mais après, elle va avoir des problèmes avec ses yeux et elle va devenir aveugle. Donc, maintenant, si toi qui voyais, demain tu deviens aveugle, ça va se passer comment? Soit tu dois profiter de la vie maintenant. Parce qu'on ne sait jamais ce que le lendemain peut nous réserver. Parce que, puisqu'on ne connaît pas. Donc, vraiment, je vous assure, j'étais tellement perturbé. C'est-à-dire, donc il faut apprécier chaque jour que Dieu nous donne. Hein. Parce que demain, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui, je vous assure, qui se sont levés, une maladie, ou bien une opération qui a emmené une autre maladie, qui a déclenché je ne sais pas quoi. Et après, tu perds même ta mobilité. Donc, ce que Dieu nous donne aujourd'hui, apprécions cela et bénissons Dieu. Parce que demain ne nous appartient pas. Et donc, vraiment, j'ai été enseigné à travers cette série. Et je comprends que chaque jour, il faut apprécier ce que Dieu nous donne. C'est tout. Il ne faut pas être trop gourmand parce que déjà ce que Dieu te donne, c'est beaucoup. Hein. Le fait de voir, rien que voir, le fait d'entendre. Et la musique est une bonne chose. Hein. Entendre des sons. Mais imaginez un peu que vous devenez sourd du jour au lendemain. Vous n'entendez plus rien. Ou bien vous perdez le goût. Vous ne ressentez plus rien. Posez-vous ces questions. Tout peut arriver. Il y a ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Apprécions cela. Un accident de circulation peut arriver. Et puis, on vous ampute les deux jambes. Vous êtes né normal. C'est pourquoi vous qui conduisez, la bénissez Dieu quand vous rentrez chez vous. Parce qu'avec tout ce qui se passe à la télé, tout ce qu'ils nous font comme documentaire et tout sur la circulation et tout, c'est une grâce quand vous rentrez sain et sauf chez vous, hein, vous qui conduisez. Parce qu'on a vu des gens, c'est pas eux qui ont fait le mauvais geste, ce sont des malades qui le font. Et ils gâchent la vie des autres, c'est pourquoi ils sont en train de faire leur campagne publicitaire où ils montrent dans l'autre aspect des accidents de la route et tout. Ça choque un peu les enfants, mais c'est pour dire que à cause des erreurs des autres, regardez comment vous pouvez gâcher la vie d'une personne. Quelqu'un qui était plus bien portant, demain pousse surtout et les deux pieds et les deux bras, complètement amputés. Pourquoi? Donc c'est vraiment une grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il faut l'apprécier dans tous les domaines d'entre nous. Et à cause de cela, on a des raisons de pouvoir nous approcher du Seigneur pour lui dire merci Seigneur, vraiment je te suis reconnaissant. À cause de ça, on ne peut pas on dit oh c'est barbant, oh là là c'est fatigant, oh il faut encore prier. Non, rien qu'à cause de ces éléments-là, tu devrais apprendre à bénir Dieu. Ce sont des raisons pour toi de prier. Hein? Rien que ces petits éléments-là de la vie de tous les jours, tu rentres chez toi, tu vois, tu fais 365 jours, tu n'as fait aucun accident de la circulation, il faut bénir Dieu. Il n'y a pas eu un malade qui est venu, qui a fauché tes enfants dans la rue. Il faut bénir Dieu. Il y a des malades qui enlèvent même nos enfants et tout cela, qui font n'importe quoi. On voit ça même à la télé. Nos enfants sont gardés là. Mais on doit bénir Dieu. Ce n'est pas... C'est là où, quand j'étais dans cette réflexion, c'est là où le Seigneur, vous pouvez me faire comprendre qu'il n'y a rien de normal dans votre vie. Ne considérez pas tout ce que vous avez comme étant quelque chose de normal. Tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, t'asseoir, tu dis non, c'est normal, c'est parce que j'ai fait ceci et tel résultat. Non! Ce que tu as et ce que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien de normal dans notre vie. Tout ce que nous sommes, nous avons là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et quand on comprend cela là, on apprend à être reconnaissant. Il n'y a rien de normal. Vivre même là, vivre là, ce n'est pas normal, hein? C'est une grâce. Vous êtes réveillé ce matin, c'est la grâce de Dieu. Vous avez pu ne pas vous réveiller. Hein. Souvent, je vous le dis, quelqu'un peut dormir et puis ben, pendant son sommeil, il est parti, le souffle est parti. On dit, mais on était ensemble hier. Oui, vous étiez ensemble hier, mais son souffle a été enlevé. Donc, il n'y a rien de normal. Hein. Déjà, il n'y a rien de normal. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Donc, on va prier ce matin pour bénir le Seigneur, pour toutes ces choses qu'il nous a données par grâce. Ce sont des cadeaux que nous recevons de Dieu, ce sont des dons, et nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses-là. Je pense que Dieu nous les donne pour nous donner les éléments, les matières à pouvoir nous tenir devant sa présence, parce qu'on ne tient pas les mains vides dans la présence de Dieu. Alors si je viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je lui apporte? Je lui apporte des offrandes. Mais quel type d'offrande? Ma reconnaissance. Reconnaissance par rapport à quoi? Mais par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai expérimenté de Dieu dans mon quotidien. Je veux dire merci pour les choses que nous appelons petites, mais combien grandes pour d'autres personnes. Merci pour ta famille, merci pour tes enfants, merci pour le travail que tu as, merci pour la santé que tu as, merci parce que tu as une maison, tu repères dans la rue. Tout ça, ce sont des grâces. Dieu nous les donne pour nous donner les moyens, les éléments pour nous tenir devant sa présence et glorifier son nom. Nous le bénissons, lui qui est la source de toutes nos ressources. Il est la source qui nous donne les ressources, qui doit nous ramener encore devant le Père pour dire Seigneur, merci encore pour les ressources dont tu m'as fait part. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin, chaque jour dans nos vies. Nous sommes témoins de cela chaque jour et nous voulons garder un cœur de louange, un cœur de louange, un cœur de reconnaissance, un cœur qui s'approche de toi avec action de grâce parce que tu lui as fait du bien. Oui, tu es Dieu. Personne n'est comparable à toi et personne ne te privera de ta louange parce que tu es digne de louange. Béni sois-tu, aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder un cœur de louange, un cœur de reconnaissance, car tu as dit que celui qui t'offre un sacrifice de louange te glorifie. Alors que ton nom soit béni encore ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je veux prier encore et nous allons prier encore que Dieu nous aide à vraiment travailler sur les dispositions
pour pouvoir entrer dans sa présence. Que Dieu nous aide vraiment, vraiment à veiller, à travailler sur ces dispositions-là, à veiller sur nos pensées, à nous impliquer tout entier lorsque nous nous approchons de lui, corps, âme et esprit. Que nous puissions véritablement nous approcher de Dieu de tout notre cœur en réalisant combien il est bon pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci.